Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous nous préparons à la consécration à la Sainte Vierge, ou à renouveler cette consécration qui est très importante, surtout aujourd'hui, où vous êtes obligés, peut-être plus qu'avant, de prendre en main vous-même votre vie chrétienne. Je ne dis pas seulement votre vie spirituelle, n'est-ce pas? Ce serait très faux de réduire la vie chrétienne, la vie de la foi, uniquement à la vie intérieure. Et c'est toute la vie chrétienne qui doit être consacrée. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous demande de nous préparer en quatre périodes. Première période, connaître le monde, et évidemment, du coup, se positionner par rapport à lui. Se vider du monde, et nous allons voir ce que cela signifie. Deuxième période, se connaître soi-même, et donc nous positionner par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu. Troisième période, connaître la Très Sainte Vierge, et bien comprendre quelle est sa place dans le salut, dans le plan du salut, sa place dans notre vie chrétienne, voulue par Dieu. Et quatrième période, connaître Jésus-Christ, et donc évidemment se donner pleinement à Jésus-Christ dans la vie chrétienne. Faire cette préparation en un mois me paraît difficile, parce que cela supposerait que je vous fasse plusieurs sermons par semaine, et ce n'est pas raisonnable. Nous allons donc, pendant trois dimanches, voir ce qu'il en est du monde, et cela va nous mener au début de l'Avent. Pendant l'Avent, nous allons voir qui nous sommes et à quel point nous avons besoin de Jésus-Christ. Évidemment, cela tombe très bien avec les fêtes de Noël. À la fin de l'Avent, nous allons mieux connaître la Très Sainte Vierge. Le jour de Noël, nous ferons la consécration. Je vous expliquerai ce qu'elle est dans son intimité et vous pourrez la faire le jour de Noël. Et puis, après Noël, nous découvrirons mieux qui est Jésus-Christ. Et cela convient encore très bien puisque la période après Noël nous met Jésus-Christ sous les yeux. Pendant la semaine, vous pourrez faire vos méditations, vos chapelets notamment, dans cet état d'esprit. Il faut bien vous dire que la préparation à la consécration à la Très Sainte Vierge est un entraînement à vivre déjà en consacré. Un peu comme un noviciat dans un monastère, on apprend à vivre la vie des moines. On ne fait pas une vie différente, après ça le noviciat est terminé, puis on passe à autre chose qui est la vie des moines. Là de même, pourquoi cette préparation chez vous, sur place, au milieu de vos activités et sans les interrompre? Parce que c'est comme cela que vous allez vivre. Parce que toute l'année, vous êtes au milieu du monde et qu'il faut apprendre à y vivre. À y vivre comme Dieu veut qu'on y vive. Et par conséquent, même s'il est bon de se retirer dans une retraite régulièrement chaque année, il faut également s'entraîner à vivre dans le monde, en chrétien dans le monde. Par conséquent, vous allez consacrer vos actions, vous allez les tourner vers le sens de chaque période de préparation. Et là, il s'agit de se vider du monde. Le monde est tout d'abord un sens, le mot monde a un sens physique. C'est les arbres, les maisons, les champs, la télévision, Internet, le téléphone, etc. Dans ce sens-là, le monde est neutre. Mais ce sens-là n'a pas tellement d'intérêt, vous voyez, parce que c'est une description purement physique. Le téléphone est un outil, point, c'est tout. Maintenant, dès qu'on parle de l'usage du monde, alors c'est autre chose. Et lorsque l'Écriture sainte parle du monde, elle ne parle évidemment pas du monde physique, elle parle du monde moral. Et qu'est-ce que le monde moral ? C'est l'usage du monde physique. L'usage que nous faisons de nos champs, des bois et des maisons, mais l'usage que nous faisons de l'Internet et du téléphone, et l'usage surtout que nous faisons de nos rapports avec le prochain. Comment nous nous citons par rapport au prochain ? Comment nous agissons avec lui ? Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que dans cet usage, nous sommes blessés. Et c'est nous qui sommes blessés. Bien sûr, le monde aussi est blessé. Et ce qui fait qu'il y a une rencontre de deux blessés, et deux blessés qui se rencontrent, ça ne fait pas deux blessés, ça fait des blessés au carré. Je vous prends un exemple. Quand un jeune se trouve devant des images, que ce soit de télévision ou d'internet, vous avez ce jeune qui est blessé et qui a une tendance naturelle à mal user des choses, et donc d'internet ou de la télévision. Vous allez me dire, il ne peut pas y avoir de bon usage de la télévision. Si, quand même, moi j'ai participé à des cours de mathématiques à distance pour les enfants scolarisés à la maison, et ça c'est un bon usage. Seulement, évidemment, il est réduit. Pourquoi ? Pourquoi il est réduit ? Parce que notre tendance est de justifier l'abondance d'images, alors que l'homme est fait pour vivre selon la raison, selon l'esprit, et non pas selon les images, et que l'homme doit donc se vider un peu des images. Il y a un jeûne de la nourriture, mais a fortiori, il y a un jeûne des images qui est nécessaire. Et l'homme a une tendance à se justifier. Et de l'autre côté, je vous disais, quand vous avez un jeune qui utilise ses moyens, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est blessé et qui a mis ses moyens à la disposition du jeune. Vous avez un réalisateur de film qui est blessé. Vous avez un créateur de contenu qui est blessé. Un créateur de jeux vidéo, un créateur de Facebook et tout ce que vous voulez qui est blessé. Et vous avez la rencontre de deux blessures, de deux blessés. C'est la première chose qu'il est important de noter, mes bien chers frères, nous devons faire un acte d'humilité et reconnaître que nous sommes blessés. Et c'est très difficile, parce que, par exemple, quand il s'agit des enfants, peu de parents osent admettre que leur chère progéniture, qui est le prolongement d'eux-mêmes, soit blessée à ce point. Quelle est cette blessure ? Elle est triple, nous dit Saint Jean. Dans une de ses épîtres, il s'adresse à la jeunesse. Il s'adresse aux jeunes à peu près dans les termes suivants. « Chers jeunes, vous êtes jeunes, vous êtes vifs, dynamiques, mais moi je vous mets en garde. Faites attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde, ça n'est que concupiscence, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil de la vie. » Alors les yeux, c'est tous les biens extérieurs. C'est souvent par là que le mal commence concrètement. La chair, il n'y a pas besoin de description, il ne s'agit pas seulement du sixième commandement, mais de la nourriture, de prendre ses aises, de tout le confort, et voyez si le monde moderne flatte cette concupiscence avec un confort qui devient pratiquement dû. Et puis, l'orgueil de la vie, c'est le plus grave, c'est cette blessure de notre esprit qui se permet de justifier le mal, qui se permet de justifier la révolte, qui se permet de se croire tout permis, justement. La révolte d'Adam et Ève, avec tout ce que Dieu nous a donné, nous n'avons plus besoin, et qu'il vienne là nous rappeler la loi et nous surveiller. Que faut-il faire par rapport à ce monde ? Il faut évidemment le fuir, mais qu'est-ce que veut dire fuir le monde ? Fuir le monde, est-ce une fuite morale ou une fuite physique ? Est-ce qu'il suffit de la fuite morale ou est-ce qu'il faut aussi la fuite physique ? Alors, la fuite physique n'est pas complètement possible. Et c'est une grosse erreur des traditionalistes, je pense, que après avoir pris conscience de leur différence avec le monde, de ce que le monde est mauvais et de ce que eux vivent d'une doctrine et d'une morale bonne, saine, ils finissent par croire que leur morale et leur doctrine étant bonne et saine, eux-mêmes sont bons et saints. Ça, c'est la concupiscence de l'orgueil de la vie. Et ils décrètent que tous les gens du monde sont mauvais. Ça, c'est aussi de l'orgueil, parce qu'il y a beaucoup de malice dans le monde, mais il y a une différence. On ne peut pas juger chacun de nos prochains. Puis nous allons voir surtout quelle doit être notre attitude envers le prochain. Ils en concluent à une fuite purement physique, essentiellement physique. C'est ainsi qu'ils ont leurs écoles pour leurs enfants. Ces écoles, il n'y a pas de méchants dedans, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de gens qui ne sont pas comme eux, il n'y a pas de gens mal élevés, etc., etc. J'exagère, je force un petit peu le trait, mais pas tant que ça. Il y a nos chapelles, leurs chapelles, dans lesquelles la liturgie est bonne, les enfants de cœur sont bons, le prêtre est bon, le sermon est bon. Je ne vais pas vous dire que les choses sont mauvaises, mais si vous voulez, on en est arrivé à croire que cette fuite physique suffisait. Or, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on sort de la chapelle, on se retrouve dans le monde, bel et bien, et tous ceux qui travaillent, qui ont un métier, savent très bien que si ils sont en dehors du monde le dimanche, et encore, parce qu'on est avec plein d'amis, et ces amis aussi sont blessés. Rappelez-le-vous. C'est pas parce que notre doctrine est saine et juste, c'est pas parce que notre morale est bonne que nous sommes tous bons. Enfin, admettons. N'empêche que du lundi au vendredi, on est dans le monde et pleinement dans le monde. Quant aux enfants, même dans les bonnes écoles, ils sont dans le monde dès qu'ils rencontrent des cousins qui ne sont pas traditionnalistes. Et puis surtout, ils sont dans le monde en esprit. On ne se rend pas compte de la puissance de l'imagination et combien nos jeunes sont dans le monde par la pensée, par les films dont ils entendent parler, quand ils ne les voient pas eux-mêmes, par l'état d'esprit de beaucoup de familles en week-end. Ah, mon petit chéri, tu as été coupé du monde pendant les jours d'école, il est normal que tu te détendes. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle la détente ? C'est-à-dire qu'on relâche la vigilance chrétienne, et puis on se permet de flirter avec le monde, c'est un vrai flirt. Et on se justifie en disant que, oh, après tout, un flirt n'est qu'un flirt. Il faut voir tous nos jeunes qui se font apporter, tout s'en trouve dans le monde, par les externes à l'école, par les cousins, que sais-je. Alors, la fuite physique est une illusion. Bien sûr qu'il y a une nécessité de fuite physique dans certains cas. Si vous héritez d'un appartement en place Pigalle, vous n'allez pas y habiter. On est tout à fait d'accord. Mais regardez, par exemple, tous les Français d'Algérie, dans les années, jusqu'en 1962, ils étaient 1 million en Algérie, et il y avait 9 millions de musulmans. Le résultat sur les Français d'Algérie a plutôt été bénéfique, c'est-à-dire qu'au milieu de ce monde, oui, c'était peut-être des musulmans particuliers, c'était pas des musulmans radicalistes, C'étaient des musulmans qui fréquentaient des chrétiens, bien entendu. Il y avait dans chaque village en Algérie une église comme il y en a en France. L'Algérie produisait son clergé, c'est pas parce qu'il n'était qu'un million, l'Algérie produisait son clergé comme chaque diocèse en France produisait son clergé. Et ils étaient au milieu des musulmans, au milieu d'Arabes qui n'ont pas la même civilisation que nous. Et j'ai toujours entendu parler des musulmans et des Arabes avec beaucoup d'amour. Et cette fréquentation, loin de baisser la foi, a au contraire renforcé la foi des chrétiens. Et elle a affaibli les croyances des musulmans. Il est absolument certain que les musulmans étaient, je ne sais pas si c'est proche ou loin, mais ils étaient sur la voie de la conversion. Qu'il y ait une fuite physique, oui, il est évident qu'il y a des gens à ne pas fréquenter, il y a des lieux à ne pas fréquenter, il faudra que je vous en parle un petit peu plus en détail d'ailleurs, vous êtes obligé de faire un acte de réflexion, de la vertu qu'on appelle de la vertu de prudence, et de constater qu'il y a des libéraux, des cousins libéraux qui sont plus dangereux que les musulmans d'Algérie, parce qu'ils n'ont rien compris à la vie, rien. Parce que en Algérie, je vous garantis qu'on comprenait la vie. Vous avez beaucoup de libéraux qui vivent dans une trop grande aisance matérielle, financière, qui vivent dans une trop grande aisance parce que on ne les fait pas travailler, ils ne connaissent pas les difficultés de la vie, qui par conséquent sont en danger et mettent en danger tous leurs amis parce qu'ils ne savent pas se situer par rapport au monde et ils ne savent pas se situer par rapport à Dieu. Ce sont des gens qui évacuent tout carême, tout effort, tout jeûne, toute abstinence, tout... Je parle en général, bien entendu. Il n'y a qu'à voir la quasi-disparition du jeûne eucharistique, qui pourtant, depuis Pie XII, n'est que de 3 heures. Et donc, il y a un discernement à faire, et bien sûr, il y a une certaine fuite physique du monde. Malheureusement, trop souvent, on fuit ce qui n'est pas le plus dangereux pour la vie chrétienne, voire même qui aurait été bénéfique, et on recherche ce qui nous est semblable. Or, qu'est-ce que vous voulez ? Un blessé recherche un blessé, parce que évidemment, c'est plus agréable de marcher avec un boiteux que de marcher avec quelqu'un qui fait la course. Nous en arrivons donc à la vraie fuite du monde, qui est une fuite morale. Et qu'est-ce qu'une fuite morale ? Nous le verrons la prochaine fois, et les deux prochaines fois. Nous allons prendre modèle sur Jésus-Christ et la Sainte Famille. Nous verrons quel est l'enseignement de l'Église sur nos rapports avec le monde. La vraie fuite, c'est une fuite morale, c'est-à-dire que nous sommes différents du monde par la vertu, mais nous sommes proches du monde par le désir de lui faire aimer Dieu. Je terminerai sur cette considération qui est très importante. Vous voyez, quand je suis allé voir Monsieur le curé des Rides pour le jubilé sacerdotal de notre bon confrère Monsieur l'abbé Grenon en Suisse à Rides, la paroisse des Cônes. Il y avait très longtemps que je n'avais pas vu Monsieur le curé des Rides, qui est totalement avec nous, qui était un grand ami de Mgr Lefebvre. La première chose que Monsieur le curé nous dit pendant que nous étions en train de discuter, rappelez-vous bien que Mgr Lefebvre était missionnaire. Et il nous l'a répété au moins 2 fois encore. C'est le grand secret. Mgr Lefebvre était missionnaire. Évidemment, il est plus facile d'être missionnaire en Afrique ou en Asie que de l'être en France. Mais puisque l'Afrique et l'Asie débarquent en France, il faut être missionnaire en France. Et c'est certainement un châtiment qui est tombé sur les chrétiens que d'avoir perdu l'esprit missionnaire, d'avoir un trésor qu'ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur, qu'ils n'ont pas voulu faire partager, qu'ils n'ont pas voulu communiquer. Je ne vais pas vous parler encore du détail de l'apostolat, encore que une des grandes révélations de ma vie, ça a été la découverte du MJCF, qui hélas aujourd'hui perd presque totalement l'esprit apostolique, enfin en grande partie perd l'esprit apostolique, et surtout un esprit apostolique de convenance avec la fraternité Saint-Pilice. C'est plus du tout la grande conquête des âmes des débuts. Et j'ai découvert à quel point l'apostolat devait être profond, j'allais dire dur, on devait aller loin, on pêche en haute mer. À quel point l'apostolat est possible par des jeunes, et à quel point c'est bénéfique, parce que faire vivre dans l'amour de Dieu, c'est vivre soi-même dans l'amour de Dieu. Et inversement, vivre soi-même dans l'amour de Dieu, c'est faire vivre dans l'amour de Dieu. Et donc il faut que nous ayons une vertu conquérante. Si nous sommes séparés du monde, c'est parce que nous sommes au-dessus du monde pour l'attirer à Dieu, mais absolument pas parce que nous le négligeons. Faisons bien attention à l'enseignement de saint Augustin dans les lectures de la Semaine Sainte, le matin du Vendredi Saint, jeudi ou Vendredi Saint. Saint Augustin pose la question: pourquoi sommes-nous au milieu des méchants? Et nous avons ça très souvent dans les psaumes. Pourquoi nous avez-vous mis au milieu des méchants, Dieu? La réponse de saint Augustin, c'est pour soit convertir le méchant et en faire un bon, soit pour que ton apostolat auprès du méchant fasse la preuve aux yeux de Dieu de ce qu'on lui a offert le salut et qu'il l'a refusé. Et saint Augustin termine en disant: fais bien attention, tu crois fréquenter un ennemi, je dis bien, alors que tu fréquentes celui qui va devenir ton ami. Je considère que l'attitude envers les non-catholiques aujourd'hui, particulièrement les musulmans, est une attitude fausse. Je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas de l'islam. L'islam est une religion fausse. Je parle des musulmans. Ce sont des créatures de Dieu qui ont été emprisonnées par le démon, parce que l'islam est une religion d'origine démoniaque. Nous devrions avoir d'autant plus à cœur de les délivrer. Pourquoi je vous parle de l'islam? Parce que qui peut le plus peut le moins. Et nous devrions avoir à cœur tout le temps d'être séparés du monde par la vertu. Vous allez retenir cette formule. Nous sommes séparés du monde par la vertu, par notre amour de Dieu, et nous sommes proches du monde par notre désir de leur faire aimer Dieu. Notre-Dame de Kabylie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.